Je vous remercie de cette invitation qui m'est une occasion d'en revenir sur un projet que je balade déjà depuis un bout de temps. C'est un projet de retraité, émérite, on dit. qui consiste à essayer de regarder un peu son passé et se dire ce que j'ai essayé de faire, quoi, est-ce que j'ai compris quelque chose. Bon, voilà. Comme l'a dit Joseph, je crois, c'est ça. C'est un des thèmes qui m'a intéressé toujours depuis que je fais de la sociologie, même si, comme tous les sociologues, comme beaucoup de sociologues, je me suis baladé d'un domaine à un autre. Enfin bon, c'est un thème qui est resté toujours présent, j'avais toujours présent à l'esprit, que j'ai encore présent à l'esprit. Alors, du coup, voilà, c'est un homme se penche sur son passé, quoi. Donc c'est voilà, une occasion pour revenir sur ce passé en essayant d'évoquer quelque chose comme un panorama de la sociologie des classes populaires en France sur 50 ans, 65 à 2015. Voilà, alors j'ai conscience du caractère un peu ambitieux.
Tu rajoutes 10 ans de chaque côté à cet ouvrage-là que je vais faire passer. Donc là, c'est de 75-2005. Ouais. Tu vas jusqu'à 2015, mais tu remontes aussi. Donc,
voilà, c'est ça. Et je suis intéressé avant, mais aussi après. Quoi, voilà.
Et je fais passer deux autres ouvrages. Enfin, trois.
Voilà. Donc j'ai essayé d'aborder cette question dans une perspective que je viens de dire rapidement, un peu réflexive, quoi, essayant de réfléchir un peu sur moi-même, qu'est-ce que j'ai fait, comment, etc., mais pas seulement moi. Une perspective aussi programmatique, pourquoi pas, c'est-à-dire avec l'idée de voir ce qu'il faudrait faire, quoi, voilà, si ceux qui travailleront aujourd'hui sur ça, voilà, quel genre de problème ils rencontreront et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Voilà. Donc c'est aussi finalement une espèce de contribution, mais en toute modestie, à l'histoire sociale des sciences sociales, qui me semble être justement sans doute une des démarches les plus fondamentales pour construire quelque chose comme une perspective un peu réflexive. Voilà. Alors, après ce petit préambule, je vais en faire un second pour essayer d'indiquer comment j'ai essayé d'aborder cette question de la sociologie des classes populaires sur 50 ans. Bon, de façon plus générale, je crois, et je suis parti de cette idée que les représentations, enfin, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, que les représentations du monde social, ce qui est après tout l'objet de la sociologie, parce que la sociologie a produit des représentations du monde social, donc ces représentations du monde social sont toujours le produit d'innombrables actions de construction qui sont toujours déjà faites et toujours à refaire. Voilà. Je pense que c'est la situation très générique à laquelle on se trouve confronté quand on fait de la sociologie, je crois, et en particulier quand on essaye de construire quelque chose comme une vision d'un groupe social ou bien même d'une société. Voilà. À propos de cette représentation du monde social, il faut aussi se rappeler que ces opérations de représentation, ces constructions, sont toujours prises dans des lignes symboliques auxquelles justement ces constructions donnent lieu. Des luttes symboliques qui opposent différentes catégories de professionnels de la représentation, et les sociologues, bien sûr, mais ils ne sont pas tout seuls, il y en a d'autres qui en font autant, les hommes politiques, les journalistes, évidemment, et qui occupent une place tout à fait centrale. Voilà. C'est important, je crois, ce travail de représentation auquel les sociologues ne sont pas les seuls à travailler, dans la mesure où produire des représentations du monde social, c'est contribuer à la production de l'ordre social, pourrait-on dire, hein, en proposant une mise en ordre, justement. La vision du monde social, c'est mettre en ordre le monde social. Bon, et c'est aussi contribuer à produire des groupes, les groupes que désignent ces représentations, en énonçant des principes de regroupement, des lignes de clivage, etc. Bon, donc au fond, il y a une espèce de travail de mise en ordre, auquel tout le monde participe, mais dans la confrontation, très souvent, hein, dans les luttes perpétuelles. Bien. Dans ces luttes symboliques, qui mettent donc aux prises des professionnels et des profanes, il n'y a pas que des professionnels, pour ça, c'est-à-dire, tout le monde fait ça, à vrai dire. Ça peut être individuel ou collectif, une représentation, elle peut être spontanée ou organisée. Dans ces luttes symboliques, les ressources que tel ou tel peut mobiliser sont évidemment très très illégales. Bon, les sociologues sont théoriquement armés, méthodologiquement armés, théoriquement, mais ils ont, bon, leurs moyens de diffusion sont terriblement limités. Enfin, bon, à côté, vous voyez, pensez voilà, aux journalistes, bon, pour des audiences incommensurables, aux politiques, avec les moyens dont ils disposent, etc., pour se faire entendre. Bon, voilà, donc les gens qui disposent de ressources très, très inégales, donc il faut le savoir, en avoir conscience, quand on participe de fait, objectivement, en le sachant ou en le sachant pas, à ces luttes symboliques, ça me semble tout à fait important de se le rappeler. Et c'est aussi pourquoi, comme le disait, je reviens aux classes populaires, comme le disait Bourdieu, dominer, je cite, jusque dans la production de leur image du monde social et par conséquent de leur identité sociale, les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. Bon, c'est une formule classique qu'on lui reproche très souvent, mais oui, je pense qu'elle met l'accent sur cette idée quoi, que je viens de développer rapidement. Quoi. Elles sont parlées bah, parce que voilà, quoi, c'est pas celles qui ont les plus grandes ressources pour se faire entendre. Ça veut pas dire qu'elles n'entendent rien. Mais, les gens des classes en question n'en passent rien, ça veut dire que bon, voilà, quoi. De fait, elles sont parlées par d'autres, quoi, qui parlent à leur place et d'elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, je crois, la représentation des classes populaires, j'y viens, est d'abord un enjeu de lutte entre les intellectuels. C'est une lutte entre intellectuels, en fait, à propos du peuple. D'où l'intérêt d'une interrogation sur les conditions de production de ces représentations des classes populaires. Voilà. Si c'est une lutte entre intellos, alors il faut comprendre comment ces intellos et pourquoi ces intellos se passent. Voilà. Alors si on s'en tient aux représentations que produisent ces sociologues, je vais laisser les journalistes, les politiques, etc., parce que bon, enfin, j'en parlerai incidemment, mais enfin, bon, ça serait vraiment trop. Si on s'en tient donc, ces représentations dépendent, d'une part, je crois, de la position occupé dans un état défini du champ de production sociologique, bon, suivant hein, de telle ou telle position, des champs d'avoir tel ou tel type de vision, et en particulier, et pas seulement, quoi, de la trajectoire qui a conduit à cette condition. Quoi. Si vous voulez comprendre les sociologues et les représentations qu'ils produisent, il faut au moins se demander où ils se situent dans l'univers de la sociologie et comment ils sont venus là. Quoi. Bon, c'est la moindre des choses. Alors, d'autre part, je crois qu'elle dépend aussi de la valeur, en quelque sorte, de la cause des classes populaires à un moment donné dans le champ politique et dans le champ intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut se demander, voilà, si c'est bon, un bon sujet, hein, c'est porteur, chérie, hein, comment ça marche, ça c'est bon, ou bien c'est has-been, bon, passé, dépassé, machin, etc. Voilà. Bon, il y a des moments, alors voilà, quand on, c'est un privilège de l'âge, on voit qu'il y a des moments, il y a des trucs qui sont très hauts, c'est vraiment, bon, tout le monde se jette là-dessus, puis plus tard, ça n'intéresse plus personne, bon, les autres y apparaissent, etc. Bon, donc je trouve que c'est important aussi pour comprendre cette histoire. Bien, alors on peut se demander ensuite qu'est-ce que ces représentations, enfin non, ensuite je continue, on peut se demander donc ce que ces représentations doivent à la trajectoire biographique de ceux qui se produisent ces représentations. Alors elles dépendent, je crois, beaucoup de la proximité, distance par rapport aux classes populaires, et plus précisément de la proximité, distance par rapport à telle ou telle fraction, par exemple les familles marginales des classes populaires. Cette distance, cette proximité conduit souvent, de facto, à ajuster en quelque sorte l'extension d'un univers à géométrie variable à ses affinités, à ses préjugés, à ses fantasmes, etc. Quoi, hein, plutôt à des prolétariats imaginaires, bien souvent, hein, qui conduisent à fabriquer des prolétariats imaginaires. C'est-à-dire, suivant qu'on est plutôt proche de cela que de cela, c'est de cela qu'on va s'intéresser, on va dire que, bien sûr, ils sont dans l'univers des classes populaires dont on prétend parler, en parlant que, bien sûr, d'un petit bout. Voilà. Quant à ce que ces représentations, donc vous voyez, proximité, distance, je pense que c'est un facteur tout à fait important, quant à ce que ces représentations doivent à la valeur conjoncturellement accordée à la classe, à la cause des classes populaires, il me semble, pour faire vite, mais je vais y revenir en détail, qu'en 50 ans, on est passé d'un populaire positif, à une époque, je me souviens quand j'avais 50 ans de moins, c'était il y a longtemps, une espèce d'enchantement ouvriériste hein, qui prévalait dans le champ intellectuel à cette époque-là, un populaire négatif, celui d'aujourd'hui, qui est supposé, par exemple, particulièrement réceptif aux thèses du FN, quoi, une façon de disqualifier le populaire, ou les classes populaires. Donc on est passé, en quelque sorte, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, mais je crois qu'on pourrait l'objectiver, une espèce de célébration de l'homme de marbre, à la stigmatisation du beau, pour faire vite, quoi. Grosso modo, on doit résumer l'ère du temps et son changement, une espèce d'inversion de signe. Voilà. Ouais, une espèce donc d'inversion de signe qui est corollaire de la disqualification du marxisme aussi consécutif à son hégémonie dans le champ intellectuel. Alors ça c'est aussi un truc important, voilà, c'est encore le privilège de l'âge. Donc, quand j'ai débarqué en sociologie, c'était le comble du chic, bon, le marxisme était bon, tellement bien porté, enfin, oui, c'était l'époque althussérienne, c'était la pensée de l'école normale dominante à l'école normale supérieure, c'était ce qui occupait tous les rayons à la librairie de Spéro, bon voilà, tout ce dont tout le monde parlait, le comble du chic, c'était ça. Quoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que bon, la pensée marxiste, ça, pas forcément très très cher, sur le marché encore, ça s'arrange un peu, mais il y a un peu de comeback qui s'opère. Mais enfin bon, il y a après une dévaluation terrible, quoi, bon, pendant longtemps. Voilà. Alors, cette introduction pour annoncer le plan qui va suivre. Cette intention réflexive, en fait, hein, qui est au fond la mienne, je crois que vous l'aurez compris, consiste à essayer de prendre la mesure des effets du rapport à l'objet sur les représentations produites. Voilà, je pense que c'est une chose, enfin, c'est une ligne, voilà, que j'aimerais tenir, c'est important. Donc, pour ça, je voudrais d'abord, il y aura deux parties donc, dans mon topo, esquisser une histoire des fluctuations du cours de la cause des classes populaires dans le champ politique et dans le champ intellectuel. Ça a commencé à varier dans le temps, je l'ai résumé très vite, mais je vais revenir plus en détail. Et puis ensuite, montrer comment l'histoire que j'ai essayé de vous présenter de ces fluctuations permet d'éclairer trois controverses sociologiques récurrentes par rapport aux classes populaires. Alors, théorie versus empirie, soumission versus résistance, misérabilisme versus populisme. Alors, je les évoquais en tentant d'indiquer de ce qui me semble pouvoir être des sorties pour échapper à ces alternatives mortelles. C'est comment est-ce qu'on pourrait bien essayer de sortir de ça. Et en conclusion, je reviendrai sur les clivages internes et sur l'unité des classes populaires. Voilà, donc je commence par la partie sur l'esquisse d'une histoire des fluctuations du cours de la cause des classes populaires. Donc je vais distinguer 1, 2, 3, 4 périodes. Voilà. Oui, 4 périodes. Bon. D'abord des années 60 à mai 68. Bon, les gens se rendent évident pour m'interroger sur la périodisation. Hein. Bon, enfin, bon, voilà. En gros, vous m'accorderez mes choix 68, celle-là, personne ne la contestera, la contestera beaucoup. Bon, alors, voilà. Je précise un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il me semble que, premièrement, la cause des classes populaires dans le champ politique, à l'époque, était, comment dire, très haute, quoi. Bon, une valeur très haute. Une espèce d'ère du temps qui était marquée à l'époque par une espèce d'offensive des classes dominées un peu partout dans le monde, hein, Cuba 1959, l'Algérie, l'indépendance d'Algérie 1962, la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine 1966, l'ébullition du PCI, on parlait tout à l'heure dans la voiture, un PCF en France qui était à plus de 20%, donc, vous voyez, bon, voilà. Il y avait plein d'indicateurs, il fallait comprendre quoi, la cause des classes populaires, des classes dominées, de façon plus générique, était très haute. Parallèlement, on peut parler, je viens de l'évoquer rapidement, une espèce d'hégémonie marxiste dans le champ intellectuel français de l'époque. Alors, on peut en distinguer au moins trois versions, sans doute, qui me sont importantes de mentionner. Il y avait la vulgate marxiste du PCF, hein, dont le maître à penser de l'époque était Roger Garoli. Voilà, bon, vous savez ce que ça valait, bon, en tout cas, c'était très pareil, c'était présent, bon, hein, on ne peut pas l'ignorer. Il y avait aussi une espèce, pour faire vite, une espèce de version humaniste de Marx, c'était les manuscrits des manuscrits de 44, hein, proche d'une forme d'existentialisme sartrien de l'époque, mais qui était repris par l'État. Non, mais je n'ai pas le temps de citer, hein, mais pour montrer, je ne sais pas, des livres importants de l'époque sur Marx, c'était fait par un jésuite, qui était en grande partie, bon, voilà, je ne sais pas, je ne veux pas. Hein, et puis, troisième version, la version althusserienne, en rupture donc avec les deux autres, la version du PCF et la version humaniste, hein, qui affichait, pour faire vite, le parti de la science contre l'idéologie, qui impulsait un retour à Marx, il fallait lire le Capital, vous connaissez les ouvrages correspondants, voilà, ce qui vient que, voilà, bon, je pourrais détailler, bien sûr, ça serait facile à faire, mais je n'ai pas le temps, ce qui vient que, peut-on dire, il me semble que les chaînes de pensée d'un intellectuel 68 heures, on comportait, je crois, au moins trois volets qui me semblent importants. D'une part, la croyance partagée au messianisme ouvrier, donc c'est une chose importante. Hein. La classe ouvrière, en quelque sorte, à cette époque-là, moi, quand j'étais jeune, dans ce temps-là, était créditée de capacité de résistance, de lutte, et même d'une capacité de renversement de l'ordre social. Potentiellement, c'était la classe, je ne sais pas, le manifeste du Parti communiste, c'était la classe qui allait bon, voilà, faire abolir l'ordre capitaliste, etc. Deuxième point, cette croyance était, je viens de l'indiquer, validée par la prophétie marxiste. En quelque sorte, la croyance bénéficiait de la garantie de la science, en quelque sorte. hein, par rapport à des espérances éthiques, morales, bon, en particulier dans la version impuissérienne, quoi, hein, c'est la science contre l'idéologie, la rue Lulle contre la rue Le Pelletier, c'est le siège du PCF de l'époque, quoi. Donc, c'était, on avait raison, quoi, puisqu'on avait la science avec nous. Merde. Et puis enfin, aussi une espèce de nécessité, plus ou moins ressentie de façon très simple, et qui continue plus ou moins à passer à l'acte, à l'engagement politique. L'engagement politique dont la formule, je crois, la plus radicale, mais la plus significative aussi de l'époque, était la ligne d'établissement. C'est l'établi de Robert Linhart, quoi. C'était, bon, il fallait épouser la classe de souvrière, donc il fallait aller à l'usine faire la révolution. Robert Linhart l'incarne de façon, je crois, idéaltique. Qui voulait dire deux choses, je crois, importantes. C'était une espèce d'affiliation ou de réaffiliation aux classes populaires. Le mot d'ordre de l'époque, c'était toujours servir le peuple, la cause du peuple, enfin voilà, c'est des titres de l'époque, et qui impliquait un autre mouvement parallèle de désaffiliation affichée par rapport à la classe d'origine, c'est des bourgeois, ce qui est souvent le cas des héritiers à la fin de cette époque-là, ou bien de la classe d'accueil, celle à laquelle on était voué à aller, donc ce qui refusait de devenir un ingénieur, un cadre, etc. Bon, voilà. Donc, voilà, pour résumer brièvement, donc, l'état d'esprit, voilà, hein, qui régnait à la Sorbonne et ailleurs, des années 60 à mai-juin 68. Alors, deuxième époque, qui me semble importante d'évoquer, même si je me concentre sur quelques époques, même parce qu'elles me semblent clés, c'est les années gauchistes, pourrait-on dire, c'est-à-dire, elles sont assez courtes, de mai-juin 68 à 1972. Voilà. 72, c'est les obsèques de Pierre Auvernet. Je crois que les obsèques de Pierre Auvernet, vous voyez, je suis trop là, je me souviens de choses comme ça, mais c'était aussi les obsèques du gauchisme. Vous voyez, il y a une énorme manifestation qui sont sur un cortège funéraire, et puis c'est fini après. Après, c'est fini, c'est la débandade. Bon, voilà. Alors, j'essaie de résumer cette histoire donc, des années gauchistes. Bon, il y a la grève générale de mai 68, hein, alors, c'est important, je crois, de rappeler cet événement, là, je l'assume complètement, c'est qu'au fond, c'est une grève générale de deux mois, qui est la plus grande qu'il y ait jamais eu dans le monde, à vrai dire, bon, la plus intense, la plus longue aussi, faisait que ceux qui l'ont vécu et qui ont participé pouvaient croire légitimement que la révolution était à l'ordre du jour. Quoi. Après tout, ça ressemblait à celle, quoi. Bon, ça avait des airs comme ça. Bon, en quelque sorte, on voyait, les croyants marxistes de l'époque, voyaient se valider, en quelque sorte, la théorie à laquelle ils croyaient. Hein. Je me souviens sur les cahiers marxistes et léninistes, qui étaient l'organe théorique de la gauche prolétarienne, il y avait une citation de Lénine qui disait « La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie, Lénine ». Bon, et on se dit « Ah ben oui, c'est vrai ». Ceux qui avaient vécu mes soixante-dix, je veux dire, mais oui, il a raison, c'est vrai. Ça a l'air d'une blague, mais c'est bon. Voilà. Donc il y a eu pendant longtemps, ou pendant quelques années, l'illusion que mai 68, c'était la répétition générale. C'est un titre de Daniel Ben Saïd et Henri Weber de l'époque. Mais voilà, cette idée, je crois, était assez près, quoi, qu'on avait assisté à un truc. Bon, ça avait foiré ce coup-ci, mais c'était pour bientôt. Bien. Deuxième aspect dont je voudrais parler, c'est le caractère protéiforme de l'expérience gauchiste. Alors, pour en faire beaucoup plus que ce que je peux faire ici, hein, surtout c'est un peu autobiographique, ce que je vous raconte ça, mais enfin bon, pas seulement, je crois. Alors, d'une part, je pense que ces années gauchistes ou des militants gauchistes, en particulier sous la forme des Mao de l'époque où moi j'ai été, des espèces de spontanéisme qui était une chose tout à fait importante qui me semble important de rappeler. Au fond, l'inspiration militante qui guidait ces gens-là était une espèce de mise en cause de ceux qui parlent au nom de la science, voilà, donc une espèce d'anti-intellectualisme d'intellectuel, hein, une espèce de forme d'anti-intellectualisme d'intellectuel, et de mise en cause des porte-paroles de façon générale, et tout ça se traduisant par l'appel à prendre la parole pour les gens ordinaires. Voilà, c'est peuple prend la parole et garde-la. Quoi. Bon, voilà, ça c'était le manifeste de libération à ce début. Voilà. Donc, voilà, un anti-intellectualisme d'intellectuel et une forme de populisme, bon, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, et de populisme au sens ethnographique du terme, qui consistait à penser que bon, voilà, il fallait que les gens prennent la parole. Bon, donc il y a une espèce de conversion qui s'opère, voilà, pour les gens de la gauche prolétarienne dont je parle, du marxisme-léninisme à la version la plus syrienne, à un maoïsme, justement, qui a cet aspect-là, quoi, l'appel aux masses. Voilà. Et qui naît. Voilà. Alors je rappelle ça, pourquoi ? Ça peut sembler très anecdotique, mais je crois que ce n'est pas étranger à l'écho, on retrouve aujourd'hui quelqu'un comme Jacques Rancière et ses professions de foi démocratique. Jacques Rancière a participé à cette histoire-là. Il a été un luthérien, il a été un des auteurs de Dire le Capital. Et puis il a fait une critique en règle, il a été la gauchiste, maoïste, modèle prolétarienne. Bon. Et après, à cette époque-là, il écrit une critique absolument virulente hein, d'un Thusser, des codes normales, du marxisme, hein, des plus savants, de Bourdieu, par la même occasion, c'est tous ces savants qui parlent de l'eau, etc. Une critique d'intellectuel, une critique anti-intellectualiste intellectuel. Quoi. Bon, qui, ça, je le rappelle parce que vous voyez, c'est ça, c'est revenu, c'est un comeback, ça revient. Quoi. Mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Quoi. Vous voyez, moi, je me rappelle de ça. Voilà. Voilà. Alors, on peut s'interroger hein, sur cet anti-intellectualisme d'intellectuel. C'est quand même une forme bizarre. Comment c'est possible? Mais je trouve que c'est intéressant. Quoi. On peut y voir quelque chose, c'est un peu vache de le dire comme ça, mais je crois que c'est pas tout à fait faux. Une forme inversée, c'est-à-dire prophylactique, d'une espèce de racisme de l'intelligence propre à des élites qui ont parti de lier justement avec l'élection scolaire. Quoi. C'est, on se méfie tellement de soi-même que bon, hop, on inverse. Quoi. Voilà. Bon. Voilà. Deuxième chose dont je voudrais parler sur ce caractère de l'expérience gauchiste, c'est la diversité des expériences de la rencontre hein, qui s'est faite avec les classes populaires, quoi, aux portes des usines, dans les quartiers populaires ou dans les bibliothèques. Ça, c'est le cas de Rancière, hein, c'est plus à la bibliothèque de la ville de Paris. Quoi, voilà, bon. Donc voilà, bon, donc diversité des expériences qui portent très souvent à élire une espèce de figure centrale au sein de la classe ouvrière. Bon, alors à l'époque, il fallait, voilà, un bon ouvrier, c'était quoi un ouvrier révolutionnaire, quoi, celui qu'on espérait rencontrer, c'était quelqu'un qui était soustrait à l'influence révisionniste. Alors c'est comme ça qu'on disait pour les mecs qui étaient au PC, quoi. C'est révisionniste, quoi. Bon, voilà, donc ceux qui échappaient à ça, donc il fallait pas y avoir, et plus ou moins conformes à des représentations plus ou moins fantasmatiques. Alors, il y a des très belles pages de Bourdieu sur la critique qui fait du garçon de café de Sartre, quoi. Il disait un garçon de café à tête intellectuelle, quoi. Bon, c'est ça l'idée, quoi, de la projection, en quelque sorte, hein, d'une manière d'être propre sur l'autre. Bon, une forme d'ethnocentrisme particulier. Qui faisait ce qu'il disait que chez les maoïstes, on était, voilà, l'OS immigré était sans doute la formule, le mec le plus adéquat hein, pour être cette espèce de miroir à fantasme intellectuel de cette époque-là. Bon, d'une part, c'était une des modalités, donc l'élection de figures comme étant les bonnes figures, quoi, de l'avant-garde, celle qui en soit est suffisante de hein, et puis aussi, pour d'autres, dans le meilleur des cas, la découverte ou la redécouverte de la diversité des figures ouvrières. Bon, ça donnait chez certains le constat plus ou moins désabusé que ce qu'on appelle le mouvement ouvrier était une petite minorité des classes populaires, que c'est pas tout le monde, tant s'en faut, ou bien pire, quoi. Je pense par exemple au Didier Ribon, dans Retour à Arras, qui utilise cette formule que je trouve pas mauvaise, il disait, lui aussi a participé à cette histoire, il dit qu'il ne voulait pas faire la révolution, il voulait faire construire un pavillon. Voilà, c'était de désappointement. Hein. Une catégorie d'intellectuels qui découvre que, bah oui, les classes populaires, c'est pas exactement comme dans les livres, quoi. C'est souvent plus compliqué que ça. Voilà. D'où un ensemble de controverses au sein du champ intellectuel, qui c'est important de signaler, parce qu'on les retrouve. Hein. C'est au fond l'essor d'un subjectivisme populiste contre la théorie, ou contre la théorie à la grand T, hein, ou contre la science. Bon, voilà, c'est Rancière contre Althusser, c'est Rancière contre Bourdieu, etc. Bon. Voilà, c'est donc aussi la remise en cause de la distinction entre science et idéologie, enfin des tas de choses comme ça, qui naissent et s'ancrent à cette époque-là. Voilà, je les mentionne parce que justement, voilà, on la retrouve. Voilà. Bon, on va y revenir. Et la remise en cause aussi de la représentation monolithique de la classe ouvrière et des classes populaires. Hein, on découvre voilà, des clivages entre les établis et les marginaux, entre les OS et les OP, entre les Français et les immigrés, etc. Bon, on découvre des aspects, en quelque sorte, de cette expérience. Voilà. On pourrait bien sûr développer beaucoup, mais j'en viens au troisième point. Troisième moment, qui est très proche, hein, je sers au début, mais après, bon, là, c'est plus long. La contre-culture, voilà, ce qu'on appelle la contre-culture de 1972 à 1981. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 72 et 81 dans ce petit monde? Disons que la cause à propos de la cause des classes populaires dans le champ politique. Alors, d'une part, il faut mentionner le déclin gauchiste, ouais, ces groupes gauchistes dont j'ai parlé, vous voyez, entre 68 et 72, donc moi j'ai dit 72, c'est la fin, quoi, c'est la débandade. En France, ça se décline très 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 vite, ouais, il ne reste plus grand chose, même si tout s'en va au rêve, enfin bon, c'est à peu près mort. C'est aussi le déclin progressif des luttes ouvrières, je pense qu'on voit au livre de Xavier Vigna, qui est vraiment important, je crois, pour suivre cette histoire-là, et il parle des années 68, quoi, c'est-à-dire, bon, il montre que ça a commencé avant, puis ça a duré quand même pas mal de temps après, quoi, d'intensité, hein, des luttes ouvrières très grandes de cette époque-là, mais qui commencent à décliner progressivement. Il y a aussi la remontée en puissance du Parti communiste français en 72, hein, c'est le programme commun qui est signé, quoi, donc il y a un essor, hein, alors que les groupes gauchistes déclinent, le PCF se refait une santé. Et puis il y a un autre truc qui me semble tout à fait important, en tout cas dans le monde des intellectuels, c'est l'émergence de ce qu'on peut appeler la contre-culture, faute de mieux. Ce fait jour, alors j'essaie de résumer très vite, hein, cette émergence de la contre-culture en France. Il y a une espèce de critique du militantisme sacrificiel, comme ils disent, qui est en train de se faire jour à cette époque-là. Et la réhabilitation parallèle du petit bourgeois, hein, de ses révoltes, de ses désirs, etc. Et donc une réhabilitation du petit bourgeois, bon, alors, on voit ça idéalement dans un canard très éphémère qui s'appelait Tout. Ce que nous voulons, tout, c'est le groupe qui s'appelait Vive la Révolution, mais qui a eu 12 numéros, c'est un journal dont Sartre était le directeur, et qui, d'une certaine façon, alors, est très intéressant, je pense, voilà, en termes d'histoire des idées, dans la mesure où il fait bien le pont, en quelque sorte, entre la pensée gauchiste, telle que j'essaie de la décrire rapidement tout à l'heure, et la pensée contre-culturelle, entre les deux, quoi. La pensée contre-culturelle qui, en France, est portée par un magazine qui s'appelle Actuel, ouais, qui a été, à cette époque-là, un truc tout à fait visible, très important. Ils ont tiré à 150 000 exemplaires, quoi, à cette époque-là, quoi. C'était vraiment tout à fait important. Voilà. Alors donc, critique du militantisme sacrificiel, c'est bon, le militant gauchiste qu'on attend d'avoir à l'école, en quelque sorte, hein, de jouer à l'ouvrier, hein, etc. Mais enfin, bon, qui n'est pas, évidemment, ils savent, bon, évidemment qu'ils sont pas, bon. Enfin, ils essayent d'acquérir l'esprit prolétarien, ils font ce qu'ils peuvent, mais enfin, bon, c'est pas forcément facile. Donc, voilà, ils ont marre, bon, ils disent, voilà, pour comprendre pourquoi on est révolté, pourquoi on se révolte nous-mêmes, donc pour découvrir les principes de ces révoltes, de ces désirs, etc. Voilà. Donc, il y a une espèce de... comme ça, de... le retour sur soi, c'est qui s'opère chez les militants gauchistes, qui va donner lieu à l'ouverture de nouveaux fronts de lutte qui sont cette propre... ah, ça c'est important, hein, qui ont cette... pour maintenant, qui ont tous cette particularité d'être perpendiculaires aux luttes de classe. Hein. Alors c'est le Front de Libération des Jeunes, FLJ, Richard, le Mouvement de Libération des Femmes, ouais, c'est cette époque-là que ça arrive, mais un peu après 68. Hein. Ouais. Le Front d'Action, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, Guillaume Kengel, machin, à cette époque-là aussi. Alors, on pourrait continuer. Hein. Donc voilà, ouais, il y a tout un ensemble de nouveaux fronts, hein, qui s'ouvrent et qui correspondent justement à ces nouvelles luttes, ces nouveaux combats, ces nouvelles causes qui sont en train... qui apparaissent et qui naissent en quelque sorte de cette réflexion sur soi-même, hein, de ces militants qui en ont marre de militer, quoi, bon, en quelque sorte, pour faire vite. Hein. Et puis, d'autre part, un autre type de mouvement qui sont comme le GIS, le groupe Information Santé, le MAJ, le mouvement d'action judiciaire, etc., qui correspondent, qui tous signalent, ça c'est rigolo aussi, c'est marrant, c'est de paraître toutes ces revues, ces revues qui correspondent à des mouvements. Qui sont édités aux éditions Solin, qui sont aujourd'hui disparues, qui sortent tous en même temps. C'est vraiment bon. Alors c'est vraiment le moment, voyez, du reclassement des étudiants gauchistes. Ils finissent bien par les bosser, quoi. Bon, et quand ils arrivent, quoi, bon, ils sont toujours contestataires un peu dans l'âme, donc ils créent des mouvements, ils créent des enjeux de contestation, de l'action de les avocats, les magistrats, machin, peut-être les travailleurs sociaux, les travailleurs de la santé, sous leur forme, ils créent des tas de journaux qui paraissent fous, sous le même éditeur, à cette époque-là. Voilà. Alors, voilà, bon, très rapidement décrite aussi un bout de ce que c'est, donc, ce mouvement de la contre-culture, qui produit un certain nombre de bouleversements qui me semblent importants dans le champ intellectuel. Alors, j'essaie de les évoquer, deux aspects qui me semblent importants. D'une part, c'est la destitution progressive de la classe ouvrière comme sujet d'émancipation. Comme on dit, voilà. C'était bon, là où la classe ouvrière portait l'avenir, la révolution, etc., ben voilà, elle est destituée, en quelque sorte, ça a perdu son intérêt, mais d'autant plus qu'on va inventer le beauf, le personnage de Camus, vous voyez, le beauf, qui est un personnage, il faut en parler longuement, ce serait très intéressant, mais je ne parle pas aujourd'hui, qui est en quelque sorte, qui peut être déduit par inversion des propriétés que se prête cette petite bourgeois libérée. Quoi. Vous voyez que, voilà, c'est exactement l'inverse, comme dans la pensée structuraliste, vous prenez l'envers et vous avez le beauf. Bon, qui va ressembler de plus en plus aux classes populaires, on y reviendra, quoi. Mais voilà, c'est... au début, ils ne disent pas comme ça. Hein. Il y a toujours du beauf entre chacun de nous, quoi. Mais enfin, bon, petit à petit, alors si on voit sa gueule, oui, il est petit, il est gros, il a des moustaches, etc. Bon, vous n'avez qu'à regarder la morphologie des classes sociales, vous allez voir, c'est pas tout à fait fortuit. Voilà. Bon, enfin, bref. Ça vaut la peine de s'y arrêter, mais bon, je n'ai pas le temps. Donc, bouleversement, destitution donc, de la classe ouvrière comme sujet d'émancipation. Voilà, et donc on va inventer de nouveaux sujets de l'émancipation, ce sera les femmes, les jeunes, les homosexuels, machin, etc. Quoi. Mais tout sauf les prolos. Bon, d'ailleurs, c'est si vrai qu'un livre là, porte bien son nom, c'est un livre d'André Gorz, qui paraît en 80, Adieu au prolétariat. Bon, voilà, de toute façon, Gorz, un intellectuel qui a accompagné ce mouvement que je viens de décrire, de toute façon, signe, voilà, son outil. Voilà. Alors, premier aspect, donc destitution de la classe ouvrière. Deuxième aspect, la critique du marxisme, je l'ai dit un mot tout à l'heure, et de la théorie, en général. Donc une critique du marxisme, il y a une espèce d'évaluation brutale, quoi, tout à fait surprenante, hein, du marxisme, hein, tu sais rien, que le comble du chiffre va s'effondrer complètement. Le cours des valeurs marxistes sur le marché intellectuel se casse la gueule pendant très, très vite. Hein, disqualification donc par les nouveaux philosophes, hein, avec l'équation Staline égale Lénine égale Marx égale Boulogne, quoi, grosso modo. Bon, c'est une théorie très vite, d'ailleurs, hein, de façon très puissante. Bon. Et sous des formes plus soft, mais quand même aussi, quoi, une critique de l'économisme du marxisme, hein, avec un intérêt croissant, c'est très dur par exemple, hein, avec un intérêt croissant pour les dimensions culturelles, symboliques du monde social. Voilà, parallèlement, on a aussi un déplacement de l'intérêt de l'exploitation économique vers d'autres formes de domination. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de déplacement d'intérêt, des déplacements aussi de domaines d'enquête. On travaillait plutôt sur le travail, on va s'occuper plus du hors-travail. On était plutôt objectiviste, avec des stats, on va devenir subjectiviste et ethnographe. On faisait plutôt dans le Conti, si vous voulez, on va se mettre à faire dans le Cali, etc. Voilà. Bon, donc une mise en cause de la vision marxiste du monde, hein, les classes et les luttes de classe, et à laquelle va se substituer une espèce de multiplication des clivages, hommes-femmes, hommes bio, homo-hétéro, blanc-noir, etc. Voilà. Tout ça naît à ce moment-là, très vite, en quelques années. Quoi. Alors je le rappelle, parce qu'on en est encore là. Quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, on a hérité de tout ça, quoi. Souvent sans le savoir. Enfin, bon, je le rappelle, c'est le privilège de l'âge que de pouvoir le rappeler. Quand on y était, on peut dire voilà d'où ça sort. Voilà, donc c'est pas tout neuf tout ça. Voilà, quatrième séquence, une longue éclipse des classes populaires, au moins de 81 à 95. Alors, on pourrait bien aller sur les dates, mais enfin, voilà, 81 à 95. Bon. En fait, il me semble qu'en dépit de la victoire de l'Union de la gauche en 81, parallèlement, le truc est trop vite, hein, trop vite, disons. Enfin, bon, la victoire de l'Union de la gauche en 81, donc la disqualification des classes populaires s'accélère, je crois, au cours des 15 dernières années qui suivent. On peut tenter d'essayer de comprendre cette dévaluation, cette dévalorisation, cette disqualification, si on veut, des classes populaires, qui est à la fois économique, politique, symbolique. On peut parler, je crois, d'une crise de reproduction des classes populaires qui se déroule comme ça sur une période un peu longue, comme ça, mais bon, qui me semble voilà, se dessiner à partir de la deuxième moitié des années 70 pour aller jusqu'à maintenant, on va dire aussi encore. Alors cette dévaluation, cette dévalorisation, dévaluation, disqualification, comme on voudra, elle est à la fois économique, politique et symbolique. Alors je vais en dire quelques mots de chacun de ces aspects. Alors, des choses que vous savez, hein, l'évaluation économique, bah, c'est les délocalisations, les restructurations de branches entières de la production industrielle, l'effondrement de ce qui était le noyau dur, hein, de la classe ouvrière, l'industrie minière, métallurgique, textile, etc. Tout ça s'effondre et disparaît très vite. Mais c'est aussi, c'est important, la mise en place de nouvelles technologies, la mise en place de nouvelles stratégies patronales, la sous-traitance, hein, qui détruit les grands ensembles ouvriers, le management participatif, etc. Bon, ouais. Diversifié, bien sûr, mais tout ça produisant la réduction du nombre d'emplois ouvriers, Enfin, bon, on est allé jusqu'à parler de disparition. Hein. Comme si ça n'était pas exagéré, c'est encore 23% de la population active. Quoi. Bon, donc on est loin de disparition, mais enfin bon, voilà. Mais quand même, bon, c'est aussi la dislocation des forteresses ouvrières, comme on disait autrefois. C'est le chômage de masse qui est stable. On parle de crise, enfin, vous voyez, c'est un drôle de mot, hein, crise qui dure 40 ans, c'est dur de parler de crise, quoi. C'est pas une crise, quoi. c'est un état stationnaire, quoi. Un chômage de masse, voilà. La précarisation croissante, l'insécurité sociale, comme disait Robert Castel, hein. On peut pas parler même de paupérisation, pour faire un terme marxiste, c'est pas inadéquat, il y a des causes comme il y en a... comme il n'y en a jamais eu depuis très longtemps. C'est aussi, bon, voilà, dans les conséquences, la ruine des métiers ouvriers traditionnels, avec des diplômes techniques qui correspondaient à ces métiers. Hein. C'est rappelé tourneur, ajusteur, machin, tout ça, c'est compliqué dans les classes populaires qui n'ont plus un clou sur le marché. C'est aussi bon, la disqualification, pour parler comme Marx, de la force du travail simple, hein, la force physique, quoi, comme force du travail, et aussi, ce qui va avec, disqualification des valeurs de virilité afférentes à cette force de travail simple comme force physique. Ça me semble très important, parce que l'effondrement des valeurs de virilité, c'est aussi l'effondrement de ce qui faisait l'identité masculine populaire traditionnelle. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est une dévaluation économique d'un certain type de ressources, mais qui est aussi une dévaluation symbolique très, très, très bien. Cette disqualification, et je trouve qu'elle est aussi politique, alors ça va avec, bien sûr, mais enfin, pas seulement, hein. C'est aussi, il faut se rappeler, l'effondrement des États socialistes, avec des guillemets socialistes, mais enfin, bon, c'est l'effondrement quand même, hein, ce qui veut dire une disqualification, de fait, quoi, du socialisme réel, si on veut, et des formes de messianisme ouvrier qui étaient solidaires, hein, de l'existence même, voilà, un pays où c'était autrement. Bon. Alors, c'est parallèlement à ça l'effondrement de la représentation politique et syndicale des classes populaires, c'est le déclin, hein, du PCF et de la CGT. Il faut lire les travaux, les deux livres de Julien Michy qui me semblent très très éclairants, hein, sur comprendre comment ça s'est passé. Bon, voilà, je pense que ça aide à comprendre très très bien. Déclin du PCF et de la CGT, la conversion sociale libérale du PS aussi, bon, jusqu'à arriver à Terra Nova, voilà, j'en reparlerai de ça tout à l'heure, c'est le temps du PS, là, bon, genre, dire un mot tout à l'heure. Bon, voilà. C'est aussi, du côté de la disqualification politique, bien sûr, la détérioration des capacités de mobilisation et de résistance d'un groupe ouvrier qui est soumis à la menace du chômage, au chantage à la docilité qui s'exerce sur les précaires et à la concurrence des intérimaires. Bon, les luttes au mur, hein, contre les licenciements, etc. Voilà. Bon, vous connaissez ça. Tout ça. Bon, c'est aussi, pour finir, l'abstentionnisme électoral croissant des classes populaires. Bon, enfin bref, voilà, une espèce de disqualification politique, hein, une sortie, en quelque sorte, du champ politique des classes populaires. Alors, disqualification économique, politique, disqualification aussi symbolique, culturelle, si on veut. Alors, je pense que cette disqualification symbolique, elle est, outre tout ce que je viens de dire, qui contribue à le produire, elle est aussi, ça me semble important, un produit de la massification scolaire, de la banalisation de l'entrée des enfants des classes populaires dans l'enseignement secondaire. Bon, pour faire vite, trop vite, vous savez, cette disqualification scolaire se substitue en quelque sorte à l'auto-élimination qui était autrefois la règle, hein, des enfants des classes populaires. L'école, c'est pas pour nous, quoi, grosso modo, donc on n'y allait pas, quoi, on s'est arrêté parce qu'on savait que bon, voilà, c'est pas pour nous. Mais aujourd'hui, on y va, en tout cas, bon, on est invité à y aller, d'ailleurs, on vous force à y aller, puis on vous dit que c'est bien d'y aller, quoi, mais en même temps, ça n'empêche pas d'être éliminé. Quoi. Alors, pas tous, bien sûr, mais enfin, grosso modo, c'est la disqualification scolaire qui aujourd'hui condamne aux emplois ouvriers ou employés déqualifiés, et qui contribue très efficacement, je crois, de ce fait, à la disqualification symbolique des classes populaires. Cette disqualification scolaire, elle est d'autant plus destructrice, je crois, qu'elle est presque toujours perçue dans le cadre d'une représentation naturaliste de l'intelligence, l'idéologie du don. On croit que enfin, ceux qui réussissent, là, ils ont des dons. Quoi. Bon, voilà, après, j'en ai pas, c'est pas de chance. Quoi. Mais non, là, par contre, lui, bon. Donc ça valide, d'ailleurs, l'idée qu'il y a des dons. Quoi. Bon, voilà, donc on croit ça, et moi, ben, je vois pas pourquoi. Bon, ben, voilà. Donc c'est des de blessures narcissiques, enfin, je pense très très fortes, hein, que l'école produit sur ceux qu'elle exclut. Voilà, parce que ceux qu'elle exclut intériorisent comme les autres des grilles d'évaluation scolaire qui déconsidèrent aussi le travail manuel et la condition ouvrière. Hein, c'est la honte d'être ou de rester ouvrier qui se fait jour, bon, à cette époque-là, de façon de plus en plus intense, quoi, et qui contribue à une espèce d'auto-disqualification du groupe ouvrier par lui-même. Quoi, hein, c'est-à-dire, ah bah oui, non, mais j'ai raté parce que je suis pas bien malin. Quoi, bon, voilà. Donc, au fond, voilà, il faut comprendre qu'un des effets, je crois, de cette intensification scolaire, enfin, c'est tout, hein, je dirais que c'est le seul effet, mais c'est un état, quoi, pour le point de vue qui m'intéresse, qui est tout à fait important, qu'au fond, cette démocratisation scolaire, si on veut, a eu au moins deux effets du point de vue de la classe. C'est la déségrégation vers le haut, hein, par la quête du salut social dans la réussite scolaire. Il y a ceux qui s'échappent, hein, donc ce qu'on s'est fait vers le haut, et puis aussi vers le bas, quoi, hein, pour ceux qui, bah, parfois, ne réussissent pas, échouent, et voilà, pour les raisons que j'ai dites. Bien. Cette disqualification symbolique se redouble d'une forme, je crois, de racisme de classe dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, qui naît sous la contre-culture, associée à la figure du beauf, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est raciste, misogyne, homophobe, enfin vous voyez, il est juste l'envers du petit bourgeois libéré dont je parlais tout à l'heure. C'est l'inverse, quoi, hein, c'est la figure inverse. Donc il y a une espèce de nouvelle incarnation stigmatisante du populaire qu'on assimile activement à l'électorat FN aujourd'hui. Quoi. Voilà, c'est le beau, c'est le mec qui vote FN, et voilà, il ressemble de ses frères aux classes pauvres. Ouais, bon, il est tout faux. Quoi. Bon, alors, on pourrait faire une... c'est intéressant, ouais, ce personnage pourrait être développé, mais on le fera plus tard. Bon. Et puis enfin, bon, disqualification symbolique qui tient... qui est lié au fait qu'au déclin du marxisme dans le champ intellectuel, on peut associer la disparition du vocabulaire indigène, en quelque sorte, correspondant, auquel s'est substitué petit à petit dans le vocabulaire indigène le lexique managérial. Alors, c'est aussi très frappant, hein, c'est les OS sont devenus des opérateurs, les OQ des moniteurs, l'usine une entreprise, la grève un mouvement social, le licenciement un plan social, tout le vocabulaire, tout le lexique est passé à la poubelle, quoi, le lexique ancien qui était lié finalement à un univers où existait la classe et les luttes de classe, dans la tête de chacun, quoi. Bon, vous voyez, on met en place un nouveau vocabulaire qui est devenu d'usage courant et qui, bien sûr, est loin d'être indifférent. Quoi. Je pense que la perte de ce qu'on pourrait appeler les mots de la tribu, quoi, en quelque sorte, ça détruit la tribu. Quoi. Si vous en privez la tribu de son vocabulaire, de son lexique, etc., vous contribuez aussi à la défaire symboliquement, vous provoquez une forme de désarroi discursif qui est aussi... la dévaluation symbolique d'un passé dont on dit qu'il n'a plus l'avenir. Quoi. Penser dans ce terme-là, hein, c'est vraiment archaïque, passé, dépassé, enfin, vous n'êtes pas dans le coup, quoi, vous n'avez rien à rien. Quoi. Vous êtes censé être disqualifié intellectuellement. Voilà. Bon, d'où, finalement, une espèce d'éclipse des classes populaires dans le champ politique. On peut penser au rapport que j'évoquais tout à l'heure, hein, ce rapport récent de Terra Nova à son nom de PS, qui dit la classe ouvrière, c'est bon, il faut laisser tomber. Quoi. Pas bon, quoi. Voilà. C'est aussi au sein du PS, que montre bien du PCF, pour le coup, ce que montre bien Julien Michy, une espèce de forme de misérabilisme, quoi, à l'égard des classes populaires, parce que c'est les pauvres, les malheureux, nanana, etc., quoi, alors, qui s'est mis en place de la vision messianique, machin, ouvriériste, plutôt d'autres fois. Je dis pas que c'était formé, je dis pas que je fais la politique du passé, je dis que ça change. Hein, bon, ouais, c'est pas ce que je ne dis pas. Bon. Voilà, c'est aussi la recul, bon, c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre, je crois, le recul de la thématique des classes sociales et du désintérêt croissant pour les classes populaires dans le champ intellectuel. Voilà. En fait, on voit dans l'univers des sociologues, en particulier, se mettre en place de nouvelles visions du monde social, à l'exception peut-être des marxistes qui sont de plus en plus rares, et sans doute de Bourdieu et de ceux qui gravitent autour de lui. Alors, on voit apparaître, par exemple, comme un 4, quatre types de visions qui me semblent voilà, devenir dominantes, c'est les inclus et les exclus, in-out, ça c'est Touraine, hein, je le cite, bon, pas le temps de développer, mais enfin bon, voilà. C'est la moyennisation, ben, ça c'est Madras, hein, il y a des moyens, quoi, bon, voilà, un grand machin de moyens, puis debout on retrouve, bon, voilà. C'est la thèse de l'individualisation, alors il n'y a plus de classe sociale, il y a des individus, quoi, bon, voilà, bon, c'est pas nouveau non plus, mais enfin voilà, des gens. Saint-Louis, par exemple, pour ne pas le nommer, voilà, on met à la mode voilà, ce genre de truc, les individus. Ou bien, alors il y a la version aussi de qui était aussi préconstruite, dont on a parlé tout à l'heure, c'est on s'intéresse à tous les clivages perpendiculaires aux classes sociales, quoi. Ils sont tous intéressants, sauf celui-là, quoi. Donc, voilà. Donc il y a des variables auxquelles on s'intéresse, l'âge, le genre, la race, etc., quoi. Bon, mais, voilà, donc, qui sont aussi les supports de nouvelles causes, hein, voilà, mais il y en a un qui disparaît. Voilà. Alors, cinquième période, c'est la dernière, vers un revival de l'intérêt pour les classes populaires. Avec un point d'interrogation, on a daté ça de 95 à nos jours. Bon, 95, je crois quand même, c'est important, c'est un peu comme les jours 68, quoi. Il y a une espèce de comeback assez imprévu quand même dans le, voilà, dans le champ des luttes sociales, dans le champ politique, c'est la grande dame des cheminots de 1995, les manifestations contre le plan Juppé qui ont pris quand même un peu de visibilité, quoi, avec quelques échos, quoi. Juppé a dû se tirer quand même, bon, ouais, c'était pas tout à fait rien. Bon, une espèce de résurgence, en quelque sorte, qui apparaissait très inattendue des classes populaires sur la scène politique, avec les effets que ça a, comme ça, toujours, d'ailleurs, dans le champ intellectuel. Hein, c'est la guerre des pétitions dans le champ intellectuel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, ouais, il y a les pétitions pour ou contre les cheminots, pour ou contre Juppé, pour avec Nicole Nota, machin. C'est aussi Touraine versus Bourdieu, enfin, oui, c'est la guerre des pétitions, comme avait raconté quelques-uns de mes jeunes amis de l'époque, dans un petit livre qui s'appelle Le Décembre des intellectuels français, c'était Julien Duval, Frédéric Le Baron, Christophe Gobert et Fabienne Pavie. Voilà, c'est un petit livre qui est une espèce d'objectivation sociologique de ce que ça voulait dire cette guerre des pétitions, qui était assez réussie. Voilà, donc, où, grosso modo, on peut dire dans cette guerre des pétitions, il y a ceux qui dénoncent l'irrationalité passéiste des classes populaires, ça c'est Touraine, c'est Nicole Nota, en face, c'est ceux qui, avec Bourdieu ou dans le champ intellectuel ou Thibault à la CGT, saluent la naissance du premier mouvement social d'ampleur contre ce qu'ils appellent la révolution néolibérale. Voilà. Donc, clivage donc, qui devient de nouveau visible, en quelque sorte, entre deux visions du monde, entre les partisans et les adversaires de la notion de classe sociale. D'où naît, bon, une espèce de renouvellement, je crois, de l'intérêt pour les classes sociales qui signalent, alors qu'on peut objectiver à travers tout un ensemble de publications hein, qui sont liées à cette époque-là. Bon, il y a Bourdieu, La misère du monde, il y a Stéphane Beau et Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, 99, il y a plus tard Paul Bouffarty, Le retour des classes sociales, 2004, il y a le livre d'Olivier Schwartz aussi, il y a, enfin bon, ouais. Et puis il y a jusqu'à maintenant, quoi, Yasmine Ciblot et Co, là, vous voyez, un beau gros livre qui montre que, bon, voilà, c'est ça ce que par les références qu'il contient, qui indique un retour de l'intérêt hein, pour les classes populaires. Voilà. On pourrait continuer comme ça tous les 10 ans, d'ailleurs, 2005. Hein, 2005, c'est la victoire du non au référendum sur le TCE. Hein, bon, avec l'apparition, alors c'est compliqué, parce que c'est aussi avec voyez, cette victoire du non, on dit, ah oui, c'est une victoire des classes populaires, mais enfin, c'est aussi alors, des abrutis qui sont bac moins 5, quoi, contre ceux qui sont, bon, qui comprennent quelque chose avec bac plus 5, tout ça, quoi. Bon, et c'est aussi l'apparition, dans le champ politique, par exemple, de la notion de populisme. Ouais, c'est populaire, ouais, c'est populaire, populiste, bon, avec cet aspect un peu infernal qu'on va mettre avec. Bon. Voilà, c'est aussi les modes de novembre 2005, avec ce qu'elle indique, vous voyez, focalisation de l'intérêt sur la fraction jeune et issue de l'immigration des classes populaires. Vous voyez, il y a une espèce de d'événements, en quelque sorte, qui relance, en quelque sorte, hein, l'intérêt pour, sous une forme ou sous une autre, pour les classes populaires. Voilà. Mais bon, il faut dire aussi, je crois, que cette espèce de revival donc, perceptible, je crois, de l'intérêt intellectuel ou sociologique pour les classes populaires, réactive aussi les controverses proprement intellectuelles qui s'étaient sédimentées en quelque sorte des années 60 à nos jours. C'est-à-dire qu'au fond, il nous semble que, et d'un jour, on se réintéresse aux populaires, alors les débats, les controverses antérieures ressurgissent par la même, et c'est celle que je voudrais maintenant évoquer. Débats donc controverses entre théorie associée à la posture philosophique et empirie, en partie d'enquête en quelque sorte, qui subdivise lui-même entre ethnographie et statistique. Controverse entre les partisans des théories de la domination et ceux des théories de la résistance. Hein, ouais, je ne sais pas si ça soit exemplaire, peut-être c'est Luc Boltanski de la critique, James Scott, la domination et les arts de la résistance, versus Bourdieu. c'est aussi la controverse misérabiliste populiste. Alors, exemplairement à travers le livre de Grillon Basson, Le savant et le populaire, et puis aussi entre le thème unité, diversité des classes populaires. Enfin, voilà. Alors, ce que je veux simplement indiquer, voilà, c'est que c'est toutes ces quatre controverses que je vais évoquer maintenant rapidement trouvent tout leur ancrage dans cette histoire contemporaine que je viens essayer de retracer rapidement. Quoi. Il me semble que voilà, c'est là qu'elle va nous pour les sociologues du conflit, c'est là qu'elle semble. En fait, et on les trouve, elles ressurgissent, elles ressurgissent avec en quelque sorte, cette espèce d'histoire oubliée, en quelque sorte devenue un peu inconsciente, en fait, elle est toujours présente sous la forme de controverses de type épistémologique ou d'allure épistémologique qui renvoie en fait à des controverses politiques antérieures. Voilà, je vais donc venir à ces trois controverses sociologiques récurrentes à propos des classes populaires, théorie empirique, soumission, résistance, misérabilisme, populisme, et puis pour finir, unité, diversité. J'essaie de me dépêcher.
Désolé,
on
a 5 minutes.
Bon, c'est grave.
On va pas. 10 minutes.
Dans une dizaine de minutes, on va prendre encore.
Bon, je vais essayer d'ailleurs de résumer. C'est toujours comme ça, je suis la barre.
Très bien.
Allez-y.
J'ai encore un peu.
Bon. J'essaye alors de faire un résumé très rapide. Théorie versus empirie. Bon, c'est, je crois, une oscillation récurrente entre une sociologie, on va dire, descriptive et une théorie associée à une posture philosophique, en l'occurrence à la philosophie marxiste. La posture philosophique est associée à l'exigence de hauteur théorique, à, en quelque sorte, la recherche de l'essence derrière l'apparence, et bien souvent ne s'embarrasse pas des réalités floues, ambiguës, etc., dont s'encombre l'essence sociale. Elle oppose, par exemple, la classe ouvrière, le prolétariat, les travailleurs, aux grandes figures allégoriques opposées de la domination, l'État, la bourgeoisie, le patronat, bon, les allégories qui se tapent sur la gueule. Bon, voilà, c'est un peu comme ça, en sorte que ça se passe dans la théorie. Voilà. Et elles font bien souvent l'économie de l'observation des pratiques. Mais, je dirais aussitôt après que la rupture avec le théoricisme conduit souvent à son inversion, c'est-à-dire aux espèces aux applications théoriques, en quelque sorte, de l'empirisme. La réduction de l'enquête au constat, la méconnaissance de toute théorie qu'engage justement la conscience, qu'engage le constat. Il n'y a pas de constat sans théorie implicite, quoi. Bon, la différence, c'est qu'elle est implicite, quoi. Et donc, qu'elle s'ignore comme telle. C'est-à-dire qu'au fond, on retombe, je crois, que, voilà, récuser la théorie, on retombe dans que Nietzsche, je crois, appelait le dogme de l'immaculée conception, ou de l'immaculée perception, en l'occurrence, pour le transformer. Vous voyez ? Bon, voilà, c'est-à-dire que le recours au terrain ou aux archives, sans théorie, méconnaît le rapport non réflexif à l'objet qui lui tient lieu de théorie, et se substitue, en quelque sorte, enfin, substitue à la sociologie spontanée de l'enquêteur celle de ses enquêtés. Voilà. Donc, au fond, voilà, tout le problème est de sortir de cette alternative, vous voyez, entre un espèce de théoricisme qui plane, quoi, bon, et un empirisme un peu naïf, quoi. Bon, je pense qu'on peut, je pense que c'est faisable, mais malheureusement, voilà, l'expérience montre que très souvent, c'est ou bien ça, quoi. Voilà. Donc, je crois que, bon, la sortie, elle se situe du côté d'une construction d'objets soumise à l'épreuve de l'enquête. Bon. Voilà, donc ça pose la question de comment enquêter aujourd'hui sur les classes populaires. Bon, je pense, voilà, mais je n'ai pas le temps, je suis désolé. Hein, voilà, ça passe par donc l'ébauche d'une construction d'objets, un petit peu exemplairement comme l'a fait Olivier Schwartz, je crois qu'il s'en tire bien, bon, voilà, pour essayer de le faire aujourd'hui, en la mettant à l'épreuve de l'enquête, en particulier en soulevant à travers même ce processus de construction d'objets, des interrogations par rapport aux contours et au contenu des classes populaires. Par exemple, ce type de construction d'objets amène à s'interroger nécessairement sur le flou des frontières entre classes moyennes et classes populaires, sur le flou des frontières entre ouvriers et employés, sur le flou des frontières entre différentes catégories au sein de la classe ouvrière, les respectables versus underclass, les established versus les outsiders, les ouvriers parvisionnaires versus les ouvriers de cité, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mode de construction d'objets qui, en lui-même, est défini, en quelque sorte. Vous voyez, un véritable programme de recherche qui est indissociablement théorique et empirique. Voilà, je pense que c'est ça la bonne voie. Alors, deuxième controverse, pour faire au pas de course, soumission, résistance. Bon, là aussi, on est une espèce de oscillation, une sorte de récurrence entre la théorie de la domination et la théorie de la résistance. Bon, théorie de la domination, je crois que les sociologues sont très bons, en fait. Pourquoi la... Bon, la question est pourquoi la théorie, la prophétie d'un être marxiste ne s'est pas réalisée, quoi, en quelque sorte. Enfin, pourquoi il n'y a pas eu de révolution ? Bon, comment comprendre que l'ordre règne ? Les sociologues sont très bons, je crois, bon, pour répondre là-dessus. Alors, il y a plein de réponses, non, je veux dire, bon, l'usage de la force physique, hein, mais pas de la violence physique légitime, Marx, Weber. La coercition économique, Marx, les salariés contraints de vendre librement leur force de travail. Bon. L'adhésion, et puis toutes les théories de l'adhésion, alors au social, au-delà de la contrainte, hein, c'est l'idéologie marxiste, les idées dominantes sont les idées actuelles dominantes, c'est Adorno-Marcuse, hein, les industries, le poste d'industrie culturelle et des cultures de masse, la répression sexuelle dans la prime d'éducation, etc. C'est Max Weber, bien sûr, les formes de domination traditionnelles et charismatiques légales, c'est Émile Durkheim, le conformisme logique et le conformisme moral lié à l'intériorisation des formes primitives de classification. C'est Michel Foucault, si on veut aussi, avec ses disciplines, ses réseaux de micro-pouvoirs qui s'exercent à différentes échelles, puis c'est pour mieux, avec la violence symbolique, machin. Alors, il y a tout ce qu'il faut, quoi, pour comprendre que l'ordre règne. De toute façon, ils ont raison, parce que l'ordre règne, bon, de fait, quoi, globalement. Quoi, donc il y a peu de raison de penser ça. Alors pour autant, est-ce que c'est interdit de penser que l'ordre règne de façon définitive et ne pas voir. Un coup de temps en temps, il se passe quelque chose. Quoi. Un coup de temps en temps, il y a néanmoins des révoltes, quelque chose qui ressemble à ça. Bon. Mais de ce côté-là, le fait est que la sociologie est beaucoup plus faible. Je pense que le schème générique, c'est celui du décalage entre disposition et position. Hein, décalage entre les aspirations, les dispositions et les positions. Bon, c'est la thèse des intellectuels frustrés, voyez, par exemple, développée par Cartier, Darnton et compagnie. C'est l'explication de 1968 telle que la produisent avec un bel ensemble, Bourdieu et Boudon, qui disent bizarrement la même chose sur la même question, à mon avis, en se trompant l'un et l'autre, mais bon, voilà. Mais je pense que c'est beaucoup parce que c'est à cause de la misère, en fait, hein, des théories de la révolte. Bon, alors, il y a néanmoins, bon, est apparu d'ailleurs à cette époque-là, quelque chose du côté des sociologies critiques, la critique des sociologies critiques, hein, c'est Boltanski ou Rancière, dont je disais un mot tout à l'heure, bon, qui hérite en quelque sorte de cette vision gauchiste spontanéiste dont je parlais tout à l'heure, quoi, hein, sans le savoir souvent, mais enfin, en le sachant, Rancière est au courant. Bon, voilà. Donc la critique, elle consiste en quoi ? Bah, disons, à dire, vous avez donné trop de force au dispositif de domination, hein, à la colonisation de l'expérience des acteurs, à l'inhibition de leur capacité critique, quoi. Vous en faites trop, quoi, en quelque sorte. À l'idée que les acteurs vivraient dans une sorte d'illusion permanente et que seul le sociologue pourrait dévoiler la vérité de leur position, etc. Bon, vous connaissez la chanson. Bon, voilà. Alors, selon Boltanski, par exemple, les acteurs sont loin d'être aveugles et disposent tous de capacités critiques, de capacités réflexives, de capacités d'action, hein, c'est le thème agency, empowerment, très mode, hein, ou bien au James Scott, bon, avec l'idée du texte caché, mais bon, on ne le voit pas, mais il y a un texte caché, bon, il suffit de le trouver, bon, si on cherche, voilà, bon, alors voilà, comment se situer, la question que je vais répondre là-dessus, comment se situer par rapport à cette alternative, donc entre des agents passifs entièrement soumis à une domination dont ils n'ont pas conscience, et des agents capables de réflexivité et activement engagés dans des enquêtes, des disputes et des épreuves. Alors, il semble que cette critique boltancienne, par exemple, est recevable, mais sous un ensemble de réserves. Ouais, bah ça serait, si je voulais développer, ça serait long. J'ai 5 raisons. C'est 5 réserves. Ben, ça va avoir, je vais les énoncer très, très rapidement. Voilà, c'est l'asymétrie des ressources. Deuxième raison, c'est les conjonctures sont inégalement favorables à la réflexivité et à la résistance. Il y a des moments pour, mais il faut se demander c'est quoi les caractéristiques de ces moments. Il y a des conditions sociales de la réflexivité, de l'émergence d'un sentiment d'injustice. Ça tombe pas du ciel, et je pense que de ce point de vue-là, les historiens, c'est très intéressant. Je pense que lire Hobsbawm, lire Thompson, à mon avis, ça donne des idées qui me semblent tout à fait intéressantes. Mais bon, voilà, pour le temps. Il faut réfléchir aussi, je crois, aux conditions sociales de l'action et à la construction des collectifs contre le sentiment d'impuissance individuelle. On peut emprunter à Sartre, par exemple, comment la sérialité, voilà, se brise dans certaines circonstances. Voilà. Bon, mais c'est pas le temps. Et c'est l'ambiguïté. Enfin, souligné là beaucoup par Bourdieu, je pense qu'il dit des choses très intéressantes là-dessus, mais qu'on méconnaît très souvent, l'ambiguïté de la labellisation résistance. Voilà. Bourdieu insistait très souvent sur la contradiction inscrite dans la logique de la domination symbolique, sur les effets, en quelque sorte, de contre-finalités qui sont inhérents à toute condition dominée. Bon, je pourrais développer, mais bon. Voilà. Misérabilisme populiste, vous connaissez ça.
Il va falloir terminer.
Savant populaire, bon, voilà, d'ethnocentrisme intellectuel au populisme. Bon, voilà, comment on passe de l'objectivisme au misérabilisme. Et l'interrogation finale, qui me semble sans doute la plus intéressante, sur l'autonomie versus hétéronomie des classes populaires. Voilà. Et je crois que, voilà. La voie que je suggérerais, moi, c'est de s'interroger sur les conditions sociales, de possibilité, là encore, de l'autonomie versus de l'hétéronomie. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. En conclusion, si j'avais eu le temps, je voudrais parler de l'unité et de la diversité. S'interroger sur la diversité, c'est très très bien, les clivages de génération, les clivages hommes-femmes, les clivages ethniques, les clivages entre ouvriers de production et ouvriers de service, entre privés et publics, entre urbains et ruraux, entre établis et marginaux, etc. On a raison de faire tout ça. Hein, voilà, mettre en évidence des stratégies alternatives, des pôles au sein de l'espace des classes populaires, l'importance de montrer les petites différences, etc. Mais, je dirais aussi, comme le risque, comme le soulignait Eric Neveu, le risque est alors, à l'inverse, celui de la fragmentation du populaire. Voilà, il semble que la vision rapprochée de l'enquête ethnographique incite à repérer des différences, à exacerber les antagonismes, à identifier des sous-cultures, des micro-cultures, etc., mais au risque de fragmentation, d'atomisation, il est d'autant plus grand qu'on multiplie les variables sans les hiérarchiser. Voilà, c'est pas la question, hein. C'est pas de supprimer les variables, c'est la question de la hiérarchisation des variables qui nous semble importante. Voilà. Par exemple, Eric Neveu concluait un article que j'aime bien, en disant comment ce populaire compliqué gagne-t-il sa vie, vous faites. Voilà, c'est une question qu'on oublie aujourd'hui. La force de tirer l'économie, pas fondamentale des questions bêtes comme celle-là. Voilà. Ce que j'aurais voulu faire si j'avais été moins maladroit, ou pas du tout dans le temps dont je disposerais, ce qu'on était de vous dire, je vais conclure sur ça, comment peut-être, me semble-t-il, pourrait-on éviter de s'évertuer à tordre le bâton dans un sens et de la sorte d'avoir perpétuellement à redresser des bâtons tordus, ce que consiste à faire, je crois, ce qu'au fond, la plupart du temps, les sociologues des classes populaires. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.